And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white?
My point is, are you playing swing or bebop? Are you a sax or are you a trumpet?
I don't like jazz.
Histoire de jazz, boogie, funk rock, rhythm and blues, rock and roll, soul, funk, disco, house, techno, swing, bebop. Histoire 2, l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à tous et à toutes. Alors on espère que vous allez bien en cette première semaine de déconfinement. On est vraiment contents et contentes de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Histoire 2. On a d'ailleurs de belles choses à vous faire écouter et découvrir ce soir. Ronnie, par exemple, pour sa chronique Sample, vous parlera d'un duo référence dans l'histoire du hip-hop américain. Vous entendrez aussi l'artiste sénégalais Nourou Kane qui nous parlera de son single Welcome et de l'album Mayam, qu'il sort avec son groupe By Folgnawa. Alors ça, c'est pour la deuxième partie d'émission, à partir de 22h. Mais avant, c'est l'interview de Max Silla que vous allez entendre, ce père de la flûte des mornes dont on vous a un peu parlé dans cette émission, hein, notamment quand on a fait l'histoire 2 consacrée à Eugène Monnat. Alors qui est Max Silla ? Max Silla, c'est un flûtiste martiniquais qui s'est attaché depuis des années et qui s'attache toujours à faire reconnaître la flûte traditionnelle comme une partie intégrante du patrimoine musical martiniquais. Et dans cette interview, il nous parlera de tout ce qu'il a amené vers la flûte de bambou, qu'il nommera lui plus tard flûte des mornes, et comment de nombreux artistes, notamment cubains, auront une influence sur sa musique. D'ailleurs, Martina reviendra en fin d'émission sur ce point, en nous parlant d'un grand orchestre cubain qui s'appelle l'Orchestra Aragon, qui écoutait Max Silla adolescent. On est donc ensemble jusqu'à 22h30 sur Radio Campus Paris.
Histoire 2 vous raconte l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris.
Alors, une chose que je vais dire tout de suite, c'est un point très important dans tout ça, c'est l'environnement. C'est-à-dire le contexte où on grandit, où on passe son enfance, ça c'est un. De deux, la capacité d'apprécier cet environnement. Parce que plusieurs personnes peuvent évoluer dans le même environnement et avoir une relation à l'environnement qui est très variable d'un individu à l'autre, concernant la même époque, le même environnement. Donc, pour parler, quand je parle d'environnement, je parle de la nature, avec la nature des mornes, avec sa flore, sa faune. Et j'ai passé une enfance dans les mornes du Robert, le quartier qui s'appelle Monéo, la Monéo, à mi-chemin entre la commune du Robert et la commune du François, sur la côte donc atlantique. De un, c'est la région de ma mère qui a grandi, ma mère est de cette région-là. Et mon père est de Ducos. Donc j'ai passé la commune de Ducos, qui est le centre-sud, tout près de l'aéroport. Et Ducos, j'ai passé mon enfance à la rue Cazeneg, comme Zobel. D'ailleurs, à 4 km de la rue Cazeneg, qu'il évoque Joseph Zobel, qui est au Petit Bourg, c'est tout près de Ducos. Donc, ces deux environnements-là m'ont permis de voir et d'entendre des gens siffler dans la nature. Il faut dire que c'est une époque où les gens allaient travailler en sifflant, ce qui est très rare maintenant, déjà. Bon. Et pourtant, pourtant, la vie n'était pas facile, hein, mais il y a une sorte de joie naturelle qu'apporte la présence de la nature et puis les alizés, enfin, le côté positif d'être dans la nature, quoi. Et puis, j'avais un oncle, un grand frère à ma mère, qui faisait des sifflets qui taillaient dans des bambous. Dans la campagne, il coupait un bambou. Il faisait des sifflets pour imiter le chant des tourterelles. Parce que, enfin, les gens de la campagne, ils chassaient, mais pas avec des fusils. Ils chassaient avec des lance-pierres, ce qu'on appelle chez nous l'arbalète. Alors, tout ça pour donner un peu le décor de mon enfance. Et donc, on a une relation directe avec une forme d'artisanat spontané. Et pas intéressé. Et quand je dis pas intéressé, c'est important aussi. Parce que maintenant, tout ce qu'on fait, le moindre truc, on parle d'euros. Il y a un intérêt matériel, tout de suite, on est intéressé par un profit quelconque. Or, dans les contextes où j'ai grandi, il y avait plus des gens qui faisaient des choses par amour des choses qu'il faisait, tout simplement. Et puis, bien sûr, il y a ce que ça rapportait. Mais je veux dire, ce n'était pas la préoccupation principale, ce que ça rapporte. C'était d'abord faire la chose pour le plaisir de crier, de faire quelque chose. Alors, tout cet environnement-là, eh bien, j'étais sensible à ça. Et puis, j'ai entendu un flûtiste, un gars aussi autodidacte de la campagne, de Monero, justement, toujours de Monero, qui est, je crois, un cousin à ma grand-mère, qui s'appelait Jo, qui jouait la flûte au crépuscule devant sa case. Il avait un petit banc, il s'asseyait sur le banc. Et il jouait des mélopées qui avaient des intonations de belay, mais pas seulement des belay, c'est des mélodies tout à fait improvisées qui correspondaient à des états d'âme, tout simplement. Et donc j'ai entendu ces choses dans ma plus tendre enfance, vers 4-5 ans. Et puis, ça c'est de un. Et de deux, à la rue Cazenègre, il y avait aussi, à la rue Cazenègre de Ducos, et dans un lieu dit qui s'appelait La Rochelle. C'est pour ça que j'ai composé un morceau d'ailleurs qui s'appelle L'Habitation Rochelle. Parce que quand on dit L'Habitation Rochelle, je précise pour ceux qui ne sont pas du pays, l'habitation, ce n'est pas une maison, c'est un lieu dit, c'est un domaine avec la maison du gireur, souvent, les maisons des contremaîtres et les villages rue Cazenègre qui sont des cases avec le minimum pour vivre, quoi. C'est des baraques, comme on dit simplement. Il y avait à l'Habitation Rochelle un monsieur qu'on appelait Monsieur Mondier, parce que c'est un monsieur qui avait une sorte de sagesse naturelle, très calme, très paisible. Et il s'asseyait le soir, à la tombée du jour, quand le crépuscule arrivait, il prenait sa flûte, il s'adossait au tronc de gros manguier, et il jouait des mélopées aussi, pareil, qui lui venaient comme ça, avec sa flûte de bambou, qu'il avait fabriquée lui-même, de manière autodidacte. Et donc j'ai entendu ça, comme ça, sans plus. J'ai entendu cette flûte, donc dès ma plus tendre enfance, et ça a fait vibrer quelque chose en moi, tout naturellement, tout en menant ma vie d'enfant, comme tous les gosses du quartier, hein. We'll be right back. Et puis, c'est à l'approche de l'adolescence, et j'étais au Robert et j'ai pris un bambou et j'étais naturellement un peu attiré par ça. J'ai essayé de fabriquer une flûte en bambou, mais à bec, parce que j'avais un pipeau en celluloïde que mon frère aîné avait eu en cadeau et puis qui me l'a passé. Et je jouais souvent un petit pipeau à bec très simple, à 6 trous. Donc j'ai essayé de faire une réplique du pipeau, mais en bambou. Et de manière purement intuitive, je perçais avec des tiges que je mettais dans du charbon, du feu, de la braise de charbon de bois. Donc j'ai commencé à bricoler comme ça, des flûtes, parce que j'aimais ça. À des moments de détente, c'était le jour de relâche de l'école, hein, c'était le jeudi à l'époque, maintenant après c'est devenu le mercredi, mais à l'époque c'était le jeudi. Et puis le week-end aussi, je bricolais comme ça. C'était une pratique régulière parce que c'est une époque où les gosses fabriquaient, on n'avait pas des jouets venant des supermarchés, on avait des jouets, et la plupart du temps qu'on fabriquait nous-mêmes, des petits camions, enfin plein de trucs comme ça. On avait une relation de récupération naturelle des caisses, enfin de tout ce qui était qu'on pouvait mettre à la poubelle, on voyait une utilisation possible. Ça, c'est important aussi. On avait déjà ce sens en Martinique, la Martinique de cette époque, de ce qu'on appelle maintenant le recyclage. On le faisait naturellement parce que les situations précaires dans lesquelles on vivait nous incitaient à créer parce qu'on ne pouvait pas acheter les choses. Et finalement, je constate à quel point c'était un avantage. Voilà, donc c'est parti de là. Mes premiers essais de fabrication vers 15-16 ans. Et puis, après, j'ai poursuivi avec des tuyaux d'installation de l'eau potable dans les maisons, des tuyaux en polystyrène, en plastique, gris. Il y en avait des noirs et des gris qui pour installer l'eau dans les maisons, parce que c'était tout début des années 60, on a commencé à installer l'eau, parce qu'avant, il y avait des fontaines publiques, où tout le monde allait avec son seau prendre de l'eau à la fontaine publique, et puis au fur et à mesure, on a installé l'eau chez les particuliers, etc. Donc il y avait toujours des chutes d'ateliers, de boutures de tuyaux, qui correspondaient au calibre des flûtes. Donc j'ai essayé de faire des flûtes comme ça. Toujours, alors là, j'avais déjà 17-18 ans. Et c'est une période aussi où j'ai entendu, à la radio bien sûr, une autre flûte, qui est la flûte cubaine, des orchestres comme l'Orchestra Aragon de Cuba, l'Orchestra Sensación, l'Orchestra José Fajardo, un grand flûtiste cubain, très grand. Et j'écoutais à la radio, on entendait ces musiques qui passaient, c'est des orchestres à cordes, un peu comme l'orchestre Malavoie, mais avec la flûte comme instrument soliste. Et ça m'a beaucoup séduit, cette flûte cubaine. Et après, il y avait un de ces orchestres comme ça à Paris, mais qui n'était pas à cordes. Par contre, il y avait la flûte, mais c'était avec des cuivres qu'on appelait Los Matecoco, et qui est venu jouer aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique. Cette flûte cubaine m'a beaucoup interpellé. Mais il faut dire une chose, c'est que tout se passait essentiellement au niveau du sentiment. Je n'avais pas de préoccupation, toujours, j'insiste beaucoup là-dessus, intéressé pour être musicien, pour projeter des choses dans le futur, rien de tout ça. C'est-à-dire, je savais que la flûte me plaisait, m'attirait. Donc, c'est tout. Mais je n'ai pas fait de calcul, de stratégie là-dessus. Et j'ai quitté l'école en classe de 3e, avec seulement le BEPC. Et je me trouve donc à 18 ans chômeur, et sans travail, je ne suis plus à l'école. Donc, voilà, dis pas qu'il me faut gagner ma vie. Je passe un test FPA, formation professionnelle des adultes, organisé par la MFRMO, en accord avec le BUMIDOM, Bioplémigration des DOM, des départements d'outre-mer, des jeunes qui avaient, il y avait une poussée de jeunes en chômage. Donc, ils ont organisé des cours en métropole de formation professionnelle aux jeunes de ma génération à l'époque. Donc, j'ai choisi la mécanique de précision, le frisage. Je suis parti, j'ai quitté la Martinique à la fin de mes 19 ans. Alors, c'est pour dire, tout ça, c'est très loin de la flûte, hein, en apparence. Mais, comme dans ma tête, il y avait déjà cette attirance, je me suis dit, tiens, j'apprends à travailler la matière, à usiner la matière. Je me suis dit, tiens, ça va me servir pour travailler après, si je veux faire construire les flûtes, j'aurai plus d'atouts de mon côté. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré cet orchestre Osmati Coco, cet orchestre cubain, et d'autres Cubains qui jouaient cette belle musique cubaine avec où la flûte joue un rôle très important. Cette flûte traversière à Saint-Clair qu'on appelle le traverso. Je m'achète une flûte comme ça, tout en travaillant en usine. Vous voyez, comme quoi on ne part pas directement dans les choses. Hein. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé tout seul à tâtonner, à essayer de jouer cette flûte. Après, j'ai su qu'il y avait une rue à Paris qu'on appelle la rue de Rome, près de la gare Saint-Lazare, où il y a tous les instruments, les fabricants et les vendeurs d'instruments de musique, violon, guitare, etc., toutes sortes. Et je suis allé là et j'ai trouvé une méthode de cette flûte en ébène. Et puis, une fois, quand j'ai quitté l'Eure-et-Loire où je travaillais, je suis venu sur Paris. Et je vais abréger parce que ce serait trop long. À Paris, j'ai rencontré d'autres musiciens antillais, martiniquais, guadeloupéens, qui étaient sur place et qui pratiquaient la musique la plupart du temps en amateur. Et puis, bien sûr, les Cubains. Des musiciens africains, des musiciens d'Amérique du Sud, des différents pays d'Amérique du Sud, que j'ai rencontrés et j'ai connu par Henri Guédon. Il m'a fait connaître l'escale, qui était vraiment la plaque tournante. Oui, Monsieur le Prince à Odéon. Des musiciens venant des pays d'Amérique du Sud, du continent d'Amérique du Sud, et aussi de Cuba. Et donc à l'escale, oui, Monsieur le Prince, c'était en deux parties. Il y avait le sous-sol. Et au rez-de-chaussée, c'était un espace d'écoute de groupes qui venaient de tous ces pays du continent sud-américain, de l'Uruguay, du Pérou, du Venezuela, du Chili. Et c'est l'époque où on parlait beaucoup de Los Calchaquis, les années 60 et tout ça. Et c'était un tremplin d'émerveillement et d'enrichissement pour moi. Parce que j'ai vu, par exemple, au rez-de-chaussée, j'ai entendu des flûtistes comme M. Facio Saint-Ian, qui était du Pérou, qui jouait la quena, une petite flûte en bambou ou en roseau, à biseau, et avec des airs très connus comme El Condor Passa. El Condor Passa qui fait... Attends, je vais prendre la flûte là pour faire un peu quelques notes pour ceux qui ne connaissent pas. El Condor Passa...
Vous l'avez sans doute reconnu, ce titre, El Condor Pasa, hein, qui a inspiré Simone & Garfunkel quelques années plus tard. Vous êtes toujours dans votre émission Histoire 2, et dans cette première partie d'émission, nous sommes donc avec le père de la flûte des mornes, Max Cecilla.
Voilà, donc c'est, ça c'est un désert, c'est un des tubes de l'époque, El Condor Pasa. Et donc il y avait différents artistes de comme je disais, d'Amérique du Sud, et aussi à l'harpe indienne, il y avait les harpistes et tout ça, les joueurs de charango. Quand j'ai entendu ces musiques, ces artistes s'exprimer, j'ai pensé tout de suite à notre flûte des mornes. De Martinique, et peut-être d'autres îles aussi, des Caraïbes. Je sais que, d'après ce que dit Simone Schwarzbart dans un de ses écrits, et en Guadeloupe, dans les Mornes, il y a eu aussi certains flûtistes qui pratiquaient comme ça, en autodidacte, la flûte dans les Mornes de la Guadeloupe. Mais disons, ça s'est plus développé en Martinique. Que j'ai découvert ça, j'ai dit, ah, je vais revendiquer notre patrimoine, notre richesse rurale, la tradition orale des mornes, avec ses flûtes de bambou autour du tambour belay, du tambour dibas, des ibois, des chachas, etc. Ça c'est venu automatiquement, ça s'est imposé à moi. Parce que j'ai tellement aimé toutes ces soirées que je vivais à l'escale d'écoute musicale, et puis j'allais faire le bœuf aussi avec les Cubains, hein, parce que je m'étais acheté cette flûte en ébène. Et donc, c'est tout un brassage d'expériences diverses. Et donc, j'ai commencé à rechercher où je peux me procurer du bambou, parce que je vivais à Paris. Et j'ai découvert un lieu, Quai de Gemap, à Paris, où il y a un grand dépotoir qui vend du bambou, qui importe du bambou en vrac. Et j'habitais à l'époque dans le 19e arrondissement, rue de Crimée, face au parc des Buttes Chaumont. Et j'emmenais ces bambous chez moi, et j'ai commencé à expérimenter. Je me suis dit, il faut officialiser notre flûte des mornes. À l'époque, on ne disait pas encore flûte des mornes. À la campagne, on appelait ça la toutoune bambou, ce qui veut dire tube sonore de bambou. Et toutoune bambou, c'est ça, parce que les quelques gars qui jouaient ces flûtes, c'est comme ça qu'ils désignaient cette flûte à la campagne. D'ailleurs, il y a une chanson de Mona où il dit « toutoune bambou, moins bon » et tout ça. Bon, tu vois, c'était le langage générale de définition de cette flûte qui est devenue la flûte des mornes avec moi, parce que c'est moi qui ai donné l'appellation flûte des mornes. Pour qu'on sache dans le temps à venir que l'origine de cette flûte, son histoire, que ça vient des mornes, etc. Et donc j'ai travaillé et d'arrache-pied, tout seul, dans une petite chambre que je louais, au 7e étage d'un immeuble, une petite chambre de bonne. J'ai travaillé pour mettre au point une méthode de fabrication pour faire ces flûtes. Je m'étais rendu, en 1968, je me suis rendu au Conservatoire international de musique qui se trouve rue Alfred de Vigny, dans le 17e arrondissement, pour étudier cette flûte. Et le professeur, M. Schweder, qui était professeur de flûte à l'époque, il m'a dit, mais jeune homme, ça fait longtemps qu'on n'enseigne plus ces flûtes au conservatoire. Maintenant, on enseigne la flûte moderne en métal, avec un mécanisme très complexe, qui s'appelle la flûte Systembum. Mais on n'enseigne plus ces flûtes du 18e, 19e siècle, qui est associée à la musique baroque. Et quand il a vu que je persistais, que c'est de cette flûte que je voulais jouer, et pas de l'autre, pas de la flûte en métal, il m'a dit, mais cette flûte, elle a été réformée parce qu'elle pose des problèmes, des difficultés techniques, etc., qu'on n'a pas avec la nouvelle flûte en métal, qui est plus facile à jouer, qui permet de jouer les œuvres plus complexes, classique plus facilement que la flûte, c'est ce doigté baroque de la flûte originelle qui est plus dure, plus ardue, et puis en plus elle n'est pas bien juste, etc. Il m'a expliqué tout ça. Alors je lui ai dit, eh bien pourtant j'ai entendu des flûtistes cubains qui jouent ces flûtes et c'est extraordinairement juste et beau. Et le professeur était étonné. Il m'a dit, j'aimerais bien écouter ça. Je lui ai demandé des disques. Il a écouté. Et quand il a écouté, il m'a dit, c'est vrai. C'est extraordinaire, c'est étonnant comment il joue avec cette flûte en ébène. Alors, si ça vous intéresse, je vais vous donner l'adresse d'un ami à moi qui est facteur d'instruments, qui a fabriqué des flûtes comme ça quand il était jeune, avec son père, qui a fabriqué ces flûtes en ébène, qui s'appelle M. Jardet, rue de la Chaussée d'Antin, derrière l'opéra Garnier. Alors ça s'est passé en 68, 68, 69. Je retourne en Martinique en 1970. Je retourne en Martinique en juillet 70, exactement. Et décidé de faire valoir, parce que j'avais déjà avancé dans mon travail de recherche sur la flûte en bambou, la touzoune de bambou. J'avais déjà fait un peu les mains et les oreilles avec les Cubains, en faisant le bœuf avec les Cubains à l'escale. Je rentre au pays et pour la grande aventure, et je décide de faire tout un battage pour faire valoir autour de la flûte, la toutoune de bambou, de la flûte des campagnes. Je commence à en parler, je prends contact avec le milieu de la musique, etc., etc. Et c'est en décembre 1970 que je rencontre un jeune homme du nom Eugène Mouna. J'étais en train de faire le bœuf avec l'orchestre La Perfecta au Robert en décembre 1970. Parce que la Perfecta jouait, dans son répertoire, il jouait beaucoup de cadence, ce qu'on appelle, ils ont créé la cadence Lipso. Et à côté de ça, il jouait aussi certains thèmes de musique cubaine. Je suis monté avec ma flûte en ébène, pour improviser. Ils m'ont invité à faire le bœuf avec eux. Et quand je quitte le podium, donc je joue avec eux ce morceau, après parce que j'étais dans le public, j'étais côté public. Donc je quitte le podium après, je retourne dans le public. Et je vois un grand jeune homme noir qui vient vers moi, qui m'a dit « Mon petit, un coup d'œil en la flûte, toi ?» Alors j'ai dit « Oui, je monte la flûte en ébène, il regarde, il me dit « Ah, ma petite, qu'elle mène une flûte comme ça ?» Et il me dit, alors j'ai dit « Oui, c'est, je lui dis un peu ce que c'est comme flûte, je reparle un peu avec lui. » Il m'a dit « Oui, mais quand je vais flûte, mais c'est flûte bambou, c'est ça plus limité, ma petite, qu'elle mène une flûte en ébène comme ça. » Et on échange un peu. Je lui dis, il me dit, est-ce que mon père est wow? Alors j'ai dit oui. Et à cette époque-là, je vivais à Sainte-Marie. Et il me dit, j'habite Marigot. Et il me dit son nom, Eugène Mouna, 270. On échange nos adresses et il revient me voir. Un jour, il avait une 4L Renault et il avait une flûte en bambou dans le coffre de la 4L. Il me dit, venez en flûte. Alors j'ai dit oui, la flûte. Il descend avec moi. Je l'accompagne et je vois il ouvre le coffre de la voiture et la flûte est dans le coffre de la voiture comme ça. Je l'engueule. Je lui dis, mais ou qu'a maltraité flûte là, ou qu'a mettait flûte là en coffre l'auto ou comme ça. Alors je lui explique que je viens à Martinique après avoir passé 6 années en métropole pour valoriser justement cette flûte de bambou qu'il trouve limitée. Et à ce moment-là, il prend sa flûte et puis on retourne dans la maison et commence à chanter Bois brûlé. Et il prend la flûte, il commence et je l'écoute. Et je vois qu'il a un certain talent qui joue bien. Et puis, un moment dans Bois brûlé, il veut monter, il chante. Da, 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 maman, c'est Bois brûlé. Quand il monte, il veut faire ça avec la flûte. Il me dit, ouais, flûte là, pas qu'à monter là. Et flûte en ébénois, qu'à monter là, mais flûte bambou, pas qu'à monter là. Alors, je lui dis, oui, et je lui montre les doigtiers. Parce que j'avais fait des recherches aussi sur toutes les possibilités. Ah, il était très content, je lui montre les doigtiers pour monter la 3e octave de la flûte. À partir de ce jour-là, je lui ai parlé. On a entrepris des conversations dont il a souvent évoqué.
Alors que Mouna était plutôt intéressé par la flûte moderne à 5 clés, Maxila trouve qu'il a toutes les qualités afin d'incarner la flûte toutoune bambou.
Quand je suis là en 1969, nous faisons un travail ensemble et il dit, moi, c'est lui qui conseille moi pas jouer d'autres instruments, travailler dans la flûte là et on peut faire le tour du monde des pays.
Pêle-mêle, dans Mémoire d'Image Musique, des improvisations de Missy Mouna avec pour commencer la présence de Maxila.
On se voit plusieurs fois, il me joue plusieurs thèmes. Il était en pleine recherche parce qu'on avait. Ça se passe en 70, j'avais donc 26 ans. Et lui, il venait tout juste d'avoir 27 ans. Il me raconte comment il a essayé de se lancer dans la musique en Martinique. Il est allé dans des concours de chant. D'ailleurs, il a fait une chanson là-dessus. Leur monter ou chanter, leur chanter, il y a qu'à dire dans la chanson, la tenue à noter. Parce qu'on le fait sentir que le petit nègre déborde. Bon, tout ça. Alors, il évoque tout ça. Il me dit comment il essaie de se lancer dans la musique. Et quand je lui dis que cette flûte-là, je me suis promis, il faut qu'elle soit connue comme toutes les autres flûtes traditionnelles des différents pays qui sont connus dans le monde. Que notre flûte de bambou ait la même reconnaissance, la même légitimité. Et il a beaucoup apprécié ça. J'ai dit qu'avec cette flûte, il pourra faire le tour du monde. Et cette phrase, il a répété des quantités de fois. Et donc, on s'est côtoyés pratiquement, alors c'était décembre 70, donc on s'est côtoyé toute l'année 71, assez régulièrement, l'année 72, l'année 73, où il a fait un coup d'éclat à un festival qu'il y avait à Trinité, en juillet 73, où il y avait la diva de la musique cubaine, Celia Cruz, qui était invitée aussi à ce festival. Et Mona passe avec le groupe de Dumont des S, et on découvre le chanteur au pied nu, avec sa flûte de bambou, etc. Parce qu'il avait une voix, hein, tout le monde le sait. Donc j'étais la première personne à l'avoir compris, encouragé et soutenu, enseigné et tout. Et il a été très reconnaissant de ça. Parce que partout, on ne le comprenait pas. Ses compatriotes, Monsieur Bizarre, qui était modèle chanté, Monsieur Graff, tu vois. Parce qu'il sortait du doudouisme, la biguine citadine, bien rangée, tout ça. Bon. Qui a ses bons aspects aussi, mais je veux dire, il arrivait avec un autre langage, donc il n'était pas compris.
Personne va t'écraper, qu'est-ce que brûler Saint-Pierre? Pour les faire nous comprendre, cher Saint-Pierre, pas tes pollués pièces. Il t'est pollué tellement, c'était en prostitué. Si vous voulez qu'il parle, vous voulez qu'il parle, faut nous parler quand même. Si vous voulez qu'il parle, vous voulez qu'il parle, faut nous dire quand même. Si vous voulez qu'il parle, vous voulez qu'il parle, faut nous parler quand même. Une petite chandelle allumée près de la ville, personne ne pouvait penser elle allait brûler Saint-Pierre. Tu peux nous faire comprendre, Saint-Pierre n'était pas pollué, elle était polluée tellement, c'était une prostituée. Dis-le-qui au palais, faut nous dire quand même. Dis-le-qui au palais, faut nous dire quand même.
Quand j'ai connu Mona, alors qu'il ne maîtrisait pas très bien encore la flûte, mais comme c'est quelqu'un qui a toujours grandi dans les mornes, il avait déjà reçu sa musique. Il restait que à trouver cette confiance et le complément de technique, de connaissances qui manquait, pour la faire s'exprimer pleinement, pour faire cette musique s'exprimer pleinement au niveau de la flûte, parce qu'au niveau du chant, de la voix, c'était déjà là, mais au niveau de la flûte, oui. C'est venu progressivement après qu'on se soit rencontrés. Alors que moi, c'est ma musique s'est développée et ça a commencé dans, justement dans cette même période, 70-73, et je suis repartie. J'ai quitté la Martinique parce que c'était un peu difficile après ces 3 années-là. Je suis retournée en région, à Paris, en région parisienne, et de nouveau, j'ai rencontré toute la diaspora du tiers-monde, d'Afrique, des gens d'Amérique du Sud. J'ai oublié de dire dans les rencontres, et entre les années, dans les années 60, quand je fréquentais l'escale, c'est à cette période-là aussi, en décembre 67, c'est curieux, le mois de décembre pour moi, parce que c'est en décembre 67 que j'ai rencontré aussi et le grand musicien de jazz, Archip. C'est pour dire que j'ai évolué dans différents mondes musicaux à Paris. Tant le monde des pays, comme je disais, d'Amérique du Sud, de Cuba, d'Afrique, mais aussi le monde du jazz. J'ai rencontré Archip qui m'a invité à jouer avec lui au Chat qui pêche en décembre 1967 déjà. J'ai été invité aussi au Bill Bouquet à Saint-Germain-des-Prés, qui est un club très connu de jazz, à l'anniversaire de l'organiste Rhoda Scott. J'avais oublié de citer quand même cette page importante de mes rencontres à Paris dans les années 60. Et c'est en avril 74, l'année de l'indépendance de l'Angola, que j'ai enregistré un disque avec le chanteur angolais Bonga, qui chantait beaucoup la musique de l'Angola et du Cap-Vert. Il y a certaines chansons de Bonga qui ont été reprises d'ailleurs par Cesaria Evora. Tout ça, c'est des richesses d'expérience, de rencontres et d'expérience. C'est-à-dire, en tant que Martiniquais, à la fois, je conscientise la richesse de mon propre patrimoine d'origine, c'est-à-dire des mondes, mais en même temps, je reste un artiste, et un homme ouvert à l'universel. À l'universel et qui, en même temps, relie et les différentes composantes de notre culture. Parce que l'Afrique, les Amériques, tout ça, c'est nous. J'enregistre avec mon gars en avril 1974 un album qui s'intitulait Angola 74, parce que c'était pour marquer l'anniversaire et l'indépendance de l'Angola.
Kapopo la matongo, onyambela ntaya ye. Kapopo la matongo, matongo onyambela ntaya ye. Aywe, ntaya ye. Ma Congo wanjambel de nwenwe Kapopo la ma Congo Zambi wanjambela de nwenwe Da ye ye Da ye ye Da ye ye Congo wanjambela, da ya ye. Kapopo la ma Congo wanjambela, da ya ye. Aywe, da ya ye. Da ya ye. Da ya ye. Da ya ye. Kapopo la ma Congo wanjambela, da ya ye. Kapopo la ma Congo, wanjambela da ya ye, da ya ye, da ya ye, da ya ye, da ya ye.
C'était Bonga avec le titre Makongo, paru donc sur son album Angola 74, auquel Max Silla a participé. On arrive malheureusement d'ailleurs à la fin de notre rencontre avec Max Silla. Cette fois, dans cette dernière partie, il revient sur l'année 1977, où il recroise Eugène Monnat à Fort-de-France.
Pendant ces 4 ans de retour à Paris, de 73 à 77, Monnat a eu un succès considérable, parce que lui, il est resté au pays, il a eu un succès considérable, c'est Eugène Monnat, la révélation, c'était le phénomène scénique le plus fort que la Martinique ait jamais connu. Et donc, quand je reviens en septembre 77, on se retrouve un jour comme ça, parce qu'on n'a pas gardé de contact, c'est pas comme maintenant où les gens se téléphonent. Pendant ces 4 ans-là, j'ai eu aucun contact avec eux. Surtout à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone, encore moins d'iPhone et tout comme ça. Donc, voilà, on a échangé. Pendant que j'étais sur place, on est complètement dans l'oralité. Et je repars, et je reviens 4 ans après. Je le rencontre à Fort-de-France, une fin d'après-midi. Il y avait un bar au bord de mer, qui s'appelait le Coco Loco. Et je le vois, je le rencontre sur le fond de mer. Il me dit, « Obama travaille pour faire. Mon coin m'a fait du mieux qu'il m'a tépé. » Comme ça, il me dit. Alors, vraiment, quand il m'a dit ça, ça m'a donné la chair de poule. Je ne m'attendais pas à une telle gratitude, à une telle reconnaissance. Ça m'a touché profondément. Surtout que ça s'était fait tellement naturellement, les échanges comme ça entre nous. Et j'ai vu à quel point il avait apprécié ces échanges. Pendant ces 4 ans-là, il a souvent parlé de son professeur, de son maître, Max Silla. Il a parlé de moi sur la scène quand il faisait ses concerts. Et les gens pensaient que ce Maxilla en question, c'était un ancien de la campagne. Et un jour, il donnait un grand concert sur le Grand Carbet du Parc Floral. Non, à l'époque, c'était encore le chapiteau. Il n'y avait même pas encore le Grand Carbet, c'était un chapiteau qu'il y avait là, au Parc Floral. Et grand concert Eugène Monnat, évidemment, à chaque fois, c'était le full back. Et il me dit, Max, tu viens, tu es mon invité. Je vais te présenter au public. Et en plein concert, j'interviens et je joue un de mes morceaux. Il dit, voilà, Max Silla. Et les gens étaient étonnés parce que je parais alors qu'on a pratiquement le même âge, mais je parais beaucoup plus jeune que lui. Et donc, quand il parlait de la façon dont il parlait de moi, quand les gens m'ont vu, ils n'en revenaient pas. Et puis surtout, quand j'ai une présence très effacé, très discrète et tout ça, alors que Monnat, c'est le géant, c'est le sort d'Otis Redding, quoi. Et donc, les gens étaient complètement estomaqués, ils ne comprenaient pas, ils étaient étonnés, ils ne s'attendaient pas à quelqu'un de mon profil. Si bien que certains croyaient même que j'étais timide. Parce que chez nous, aux Antilles, il y a une chose que j'ai constatée, c'est qu'il y a une tendance beaucoup dans le m'as-tu vu. Le côté où les mécaniques, jeu d'importance, tout ça. Et quand, quand j'arrive avec ma sobriété, ma simplicité, eh bien, les gens, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris. Ils pensaient que c'était de la timidité. Est-ce que vous voyez un artiste, par exemple, comme Georges Brassens? Un type comme Brassens, il arrive, il rentre sur scène, j'ai l'impression, c'est le paysan du coin, comme n'importe qui. Mais quand il prend sa guitare, c'est quand il ouvre la bouche, il commence à chanter. Tout se passe dans le chant, dans sa guitare et sa voix. Mais il ne joue pas un personnage, il est complètement effacé. Et en même temps, il a une présence qui est forte dans cette discrétion, dans cette sobriété. Il y a une présence forte qui se dégage. Mais ce n'est pas le style du pays, ça. On a une conception de l'artiste que, voilà, ça, c'est... Donc, ça supprime beaucoup de gens. Voilà, et donc, j'ai commencé, suite à cela, à cette bonne réputation qui m'a faite, Monsieur Aimé Césaire m'a proposé d'ouvrir un atelier d'enseignement de la flûte au CERMAC, Service Municipal d'Action Culturelle de la ville de Fort-de-France. Et donc, j'ai enseigné là de nombreux élèves de tous âges. Il y avait même des Guadeloupéens qui étaient de passage en Martinique, certains qui faisaient leur service militaire, qui en ont profité, qui sont venus étudier la flûte avec moi au CERMAC. Dédé Saint-Puis, qui à l'époque était connu comme percussionniste, et beaucoup comme percussionniste avec différents groupes, dont Malavoie, qui est le dernier groupe avec lequel il a joué. Il est passé à l'atelier, comme beaucoup d'autres, étudier la fabrication, parce que j'enseignais à la fois la fabrication et la pratique instrumentale.
Thank you.
Alors après cette interview de Max Silla, Martina a choisi de revenir sur un aspect de la musique cubaine si cher justement à l'inspiration de Max Silla.
Comme il le dit Max Silla même dans son interview, il écoute la flûte cubaine à la radio et il en reste fasciné. Parmi les artistes cubains qui l'inspirent à cette période, il y a l'Orchestra Aragon qui s'inscrit dans l'histoire avec les sons de sa flûte et avec les rythmes du cha-cha-cha. Pour l'Orchestra Aragon, la radio joue en effet un rôle central tout au long de la construction de son succès. Dans sa toute première formation, le groupe est composé par des amateurs. Parmi les joueurs, il y a un boulanger, un teinturier, un charpentier. Ils sont loin de La Havane et ils font le possible pour essayer de diffuser leur musique. Ils se déplacent donc et à la fin de chaque concert, ils partagent les revenus de la soirée de façon égale. Chose considérée particulière par l'époque parce que certains instruments étaient considérés plus nobles que des autres. Les arrivées et les départs des différents membres du groupe apportent à chaque fois un nouveau souffle à l'orchestra, qui en 1952 développe une série d'innovations expérimentées depuis quelque temps que l'on appelle « danson de nuevo ritmo » pour indiquer la vague de nouveautés qui portait cette musique. Ce qui me fascine, comme je le disais dans l'histoire de cet orchestra Aragon, c'est le rôle important que la radio a joué. À plusieurs reprises, c'est grâce à la radio qu'arrivent les petits coups de pouce pour augmenter leur popularité. Déjà en 1953, lorsqu'un des musiciens entend la radio Orchestra America, il est conquis par les innovations du compositeur de ce groupe. Il cherche donc un financement, il se rend à La Havane pour le rencontrer. Il s'agit de Eric Jorin, qui offre en cette occasion à l'Orchestra Aragon plus d'une quarantaine de bases de cha-cha-cha. Les morceaux de cha-cha-cha sont sans doute à l'origine du succès de l'Orchestra Aragon. Au rythme de ce nouveau style de charanga qui va conquérir le public, l'Orchestra Aragon commence donc à enregistrer ses succès morceau après morceau. Un des plus connus est El Agua de Clavelitos, qui devient le titre d'une émission radio en apportant encore plus de popularité à cette chanson. Enfin, toujours grâce à la radio, la Orchestra Aragon trouve son espace fixe d'exhibition. La radio CMQ de La Havane leur offre une demi-heure chaque dimanche dans son programme Fiesta en el Aire. À cette période, la foule envahit les studios de la radio où l'orchestre a joué. Le moment est donc venu de se rendre compte qu'à partir de maintenant, être musicien, c'est devenu leur métier principal. C'est parti, ils font un tour en Venezuela, dans les États-Unis et finalement au début des années 60, pour la première fois, ils arrivent en Europe et plus précisément en France. Où, dans le cadre de la grande tournée au Music Hall de Cuba, l'Orchestre Aragon s'exhibit à l'Olympiade de Paris. En ce moment, Max Silla est aussi déjà sur Paris et il a peut-être pu finalement croiser de près le flûtiste cubain qui, quelques années auparavant, l'avait inspiré depuis les fréquences de sa radio en Martinique. Pour célébrer le pouvoir et la magie de la radio, je vous propose maintenant d'écouter les morceaux qui avaient donné le titre à l'émission radio homonyme, El Agua de Clavelitos.
Pon tu pensamiento en mí. Verás que en ese momento mi fuerza de pensamiento ejerce el bien sobre ti. Thank you.
Histoire 2 vous raconte l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris.
Comme d'habitude dans cette émission, il est l'heure maintenant de retrouver Ronnie pour sa chronique sample. Il revient ce soir sur l'album d'un duo qui marquera l'histoire du hip-hop dans les années 2000.
L'année 2004, au niveau de la scène hip-hop américaine, est au début de l'un de ses grands changements. Avec le début de la domination du Dirty South par des rappeurs tels T.I., Lil Wayne ou Ludacris, le déclin complet de la West Coast et la scène new-yorkaise qui navigue entre deux eaux, un ovni au son tellement vieux mais à la fois moderne et intemporel sort des bacs le 24 mars 2004. Son nom est Matt Villainy. Le duo Matt Villain est composé du digger-producteur Madlib et du rappeur underground MF Doom. Il propose une expérience totalement psychédélique et un son en dehors de ce qui passait dans les ondes. Mais qu'est-ce que le son Matt Villain ? Pour essayer de résumer, prenez une dose de boom bap new-yorkais des années 90, saupoudré avec des samples de rock, rhythm and blues, soul des années 70 et 80, et la petite cerise sur le gâteau, des extraits de films et séries, notamment de super-héros, des 60s, et vous obtenez ce classique. Du coup, je vais vous sélectionner mes trois titres préférés de l'album avec leur sample. En premier, Fancy Clown, 17e titre de l'album. Sur ce son, Doom nous parle avec humour d'une de ses histoires d'amour qui finit mal. Madlib sample That Ain't The Way You Make Love du chanteur de blues Dizzy Hill, paru en 1975. Mon deuxième choix va pour Strange Ways. Le sample sur ce titre vient du groupe de rock progressif anglais Gentle Giant et a pour titre Funny Ways. Havoc, beat this mad traffic, sleek and lavish, people speak and leak it to the maverick. He see it as just another felony drug arrest. Et pour finir, mon dernier choix ira à Rhinestone Cowboy, son qui d'ailleurs termine l'album. On y retrouve plusieurs samples, dont deux titres de la chanteuse de MBP, Mariana Betana, avec les titres Mariana Mariana et Molambo, sortis respectivement en 1971 et 1968. Oh yeah! Hold a cold one like he hold an old gun, like he hold a microphone and stole the show for fun, or a foe for ransom, flows is handsome, holds in tandem, anthem, random, tantrum, phantom of the grand old Opry, ask the dumb hottie, mask, pump shoddy, somebody stop me, hardly come sloppy on a retarded hard copy, after rocking parties he departed in a jalopy. Watch the drop top poppy, known as the grimy, limey, slimy, try me, blimey. Simply smashing in a fashion that's timely. Mad villain dashing in a beat rhyme crime spree. We rock the house like rock and roll. Got more soul than a sock with a hole. Set the stage with a goal. To have the game locked in a cage, getting shocked with a pole. Overthrow it like throwing over a biscuit. A lot of bitches think he's overly chauvinistic. Let go his dick if that's the case. Rats were the waste, there's more cats to chase. Dogs, he got it like new powers. Woke up broke, spit the shit in a few hours. Sheesh, been a leash since the Glee Club. Had your fans saying, please make me a dub. Well, since you asked kindly, where he been behind the mask, who can't find me? You're blind, in the wine zone. Leave your mind blown when he shine with the nine. He's a rhinestone. Cowboy. No, 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 enough. Goonie Goo Goo, loony cuckoo, like Gary Ganu off Muzu Review. But who knew the mask had a loose screw? Hell could hardly tell, had to tighten it up like the Drells and Archie Bell. It speaks well of the hyperbase. Wasn't even tweaked and it leaked into cyberspace. Couldn't wait for the snipes to place. At least a track listing, bone print typeface.
stop for a year. Come back with thumbtacks, pop full of beer. We're hip-hop sharecroppers, used to wear flip-flops, now rare gear coppers. He's in it for the quiche, you might as well not ask him for no free shit, capiche? Oh, my aching hands, from raking in grams and breaking in mic stands. Villain, the smile stunned your chick, while he put herself in your shoes, run your kicks. You heard it on the radio, tape it, play it in your stereo, your crew will go ape shit. Raw lyrics, he smells them like a hunch, the same intuition that tells him spike the punch. Curses, he's truly the worstest, with enough rhymes to spread throughout the boundless universes. Let the beat blast, he told him wear the mask, he said you better shoot ass. Made a fine chrome alloy, find him on the grind, he's the rhinestone cowboy.
Il y a encore tellement de choses à dire sur cet album qu'il aura peut-être droit à son petit format court. En attendant, la paix sur vous.
Histoire 2 sur Radio Campus Paris.
Pour clôturer cette émission, on finit avec notre coup de cœur du mois, celui de l'artiste sénégalais Nourou Kane, qui vient de sortir le single Welcome de son album à venir, Mayam. On en a donc profité pour lui poser quelques questions sur ce futur opus.
L'album s'appelle Mayam, c'est les ressources en wolof. Comme l'Afrique est tellement riche, il suffit d'exploiter la richesse, que ce soit naturelle, culturelle ou spirituelle, qui est convoitée d'ailleurs par le monde entier. Donc pour moi, c'est un message aussi d'espoir pour la jeunesse africaine. Depuis maintenant 5 ans, j'ai travaillé sur cet album, parce qu'en dehors de la musique aussi, j'ai fait de la peinture et j'avais presque arrêté. Il m'arrivait des fois de rentrer à la maison, en faire un petit peu et laisser. Et depuis 5 ans, depuis mon dernier album, je me suis vraiment concentré dans ma peinture, art brut et recyclage, moi, ce que j'ai fait. Et avec les pinceaux, en écrivant, en peignant, je me dis, tiens, ça, art brut. Et chaque tableau m'inspirait une chanson. Et voilà, Thierry, qui est le deuxième du groupe, premier même, je vais dire, et deuxième en même temps. Je ne sais pas quelle place se donner parce qu'on a formé le groupe ensemble, ça fait maintenant 19 ans. Et quand je l'ai appelé, lui dire, écoute, moi, je suis dans la peinture en ce moment. Et puis, il m'a dit, ça tombe bien, lui aussi, parce qu'il avait des compositions. J'ai dit, écoute, je vais descendre à Paris. Et comme ça, l'album est né, quoi. À travers la peinture, j'ai fait des images et faire cet album, Mayam, les ressources, avec cette chanson, Welcome to Sénégal. Welcome, c'est, ça parle vraiment du teranga du Sénégal, l'hospitalité sénégalaise. Parce que Sénégal, non, dès qu'on y arrive, c'est écrit noir sur blanc, pays de la teranga. Toutes les portes sont ouvertes, tout le monde est bienvenu. Vous avez le droit de rentrer dans chaque maison, l'heure de manger. Au Sénégal, c'est normal. À midi, vous rentrez, on vous dit de venir manger. C'est limite une obligation. Et puis, dédicace aussi à mon pays que j'ai laissé derrière moi il y a très très longtemps. Ces valeurs me manquent, son parfum, les marchés, l'accueil, ma mère, l'hospitalité. C'est pour cela, voilà, c'est comme c'est une façon de dire aussi, moi, au retour, c'est moi-même qui dis welcome au monde de la vie, parce que le but, c'est mon pays de la terre.
Sénégal, Sunougal, Samagal, Sunouré au Sénégal, et bienvenue. Waouh. Pas de retard, pas de bagarre, pas de prise d'un café, café, café tout bas. God.
pas de plus dans le café, 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 tout va.
C'est la première fois dans notre album on utilise une batterie moderne, une guitare basse, un clavier. Pendant tous les albums qu'on avait fait avant, on était plus dans la musique traditionnelle guinéenne, on mélange des instruments traditionnels fusionnés qui sonnent comme de musique métallique. Et pour la première fois, on a utilisé la basse, la guitare pour amener ce qu'on appelle enfin la musique urbaine underground. Ouais, donc c'est la musique afro-reggae funk, c'est une voix urbaine, mettant avec les touches jamaïcaines, tu vois, comme les DJ africaines, qui nous fait penser un petit peu de la musique lingala, pour percussion de Yoruba, joue en général pendant leur moment de cérémonie, avec les ngoma. En général, en Afrique, on l'utilise pour quand il y a une victoire, ou bien la saison des pluies.
Et ton groupe Baïfal Nawa, est-ce que tu peux nous en parler?
Le groupe Baïfal Ginawa, aujourd'hui, composé de 6 musiciens avec des percussionnistes, dépend des concerts, mais la base, il y a Thierry qui fait le hood, guitare, composition. Il y a Jowat El Garouge, mon ami Jowat, qui joue le même instrument que moi, percussionniste et chant, il fait Gimbri aussi. Il y a Hichem qui est bassiste, voilà, Hichem, le grand Hichem. Il y a Mamoudou Sar, il y a Habib qui fait batterie, Mamoudou Sar percussion. Et voilà quoi, j'oublie pas quelqu'un, il y a Seb qui fait les claviers, vous voyez, donc là on essaye de élargir le truc, toucher aussi d'autres sensibilités, toucher d'autres personnes à travers toujours la musique, parce que vous savez, Mylène, moi j'aime aussi toujours de la musique, moi je suis en perpétuel que des sonorités, toujours, je cherche, j'ai été bercé comme ça, j'ai grandi comme ça, je suis comme une enfant chérie de la Médina, de Dakar, donc c'est le quartier des artistes, tout petit, ça courait partout, ça jouait partout la musique, les griots, les baptêmes, les percussionnistes multiculturels, que ce soit les Wolof, les Bambara, toutes les percussions, ça m'a bercé depuis tout petit, donc depuis tout petit j'ai été toujours, je suis toujours curieux des autres cultures, Reggae, j'écoutais du reggae déjà au Sénégal. Et pourtant, à l'époque, écouter du reggae, je ne dis pas que c'était interdit, mais on vous regardait à travers, quoi. Parce que limite, c'est, voilà, qui dit reggae dit, voilà, il fume, il fait ceci, il fait cela. Donc après reggae, j'écoutais du hard rock, j'écoutais du funk, un peu de blues, c'est pour cela, tous mes albums, j'ai beaucoup de fois des inspirations de blues, depuis, comment elle s'appelle, voilà, toutes les bluesman, j'ai les noms, mais Skip James, ça m'a beaucoup, Booker White, voilà, Booker White, le seul blanc qui jouait à l'époque des blues tolérés par les noirs, à l'époque, Booker White, qui a une technique incroyable que j'essaie d'imiter parce qu'il tape sur la caisse en même temps, il le pousse juste sur les cordes. Je parle de Skip James, qui a inspiré le film de Mali à Mississippi, le film américain. Pour vous dire juste depuis tout petit, j'ai été toujours comme ça. Aller en Gambie en 96, m'inspirer là-bas de la musique mandingue, revenir à Dakar, amener ces musiques mélange de mandingue et du mbalax, ça a marché à l'époque. Et quand je suis venu en France, forcément.
En octobre dernier, on a fait une émission sur la musique gnawa et on a parlé d'un de ces instruments phares qui est le gemri, instrument que tu joues aussi d'ailleurs, si je me trompe pas.
Oui, dans le groupe, je fais chant, guitare et gimbri. Le gimbri, je l'ai appris avec un grand maître gnawa qui s'appelle Marjoub Erawi, qui m'a enseigné les codes de bonne conduite du gimbri au Maroc. Et je suis revenu en France avec les disques, les CD, j'écoute, je joue, j'accorde, et je vous en parle aujourd'hui il y a presque 17 ans. Mais sinon, quand je suis venu en France au début, j'ai gagné un petit peu ma vie comme bassiste, j'ai fait un peu de percus, et je compose dans le groupe. Et mon premier groupe en France, quand je suis venu, c'était le groupe Nihma, qui était plus musique afro, avec des saxophones, jazz, un peu de tambour marocain. C'est un groupe qui rejouait les mêmes morceaux, les mêmes titres que j'avais au Sénégal avant de venir en France en 98. Et jusqu'en 2005, mon premier album Sigil, qui a été salué par la BBC, Bessinou Kama. Sigil, ouais, qui veut dire « sois fier, lève-toi », en Wolof, toujours dans la langue. Et après, on a fait Nombon Buzz, qui a été produit par 3D Family et le feu Marc-Antoine Moreau qui s'occupait de Amadou et Myriam, et à son âme d'ailleurs. Et après, on a fait Exil. Et depuis, voilà, 4 albums on a fait avec le groupe de Baïfal Gnawa. Voilà, donc c'est le Baïfal, musique de Baïfal, des Sufis, du grand maître spirituel au Sénégal, et la musique Gnawa. Parce que pour moi, les deux vont ensemble. Parce que la musique Gnawa, elle parle de couleurs, les couleurs rouges, bleues, pour faire venir des génies, des esprits, pour rentrer dans les malades, parler et soigner, musique thérapeutique. On sait que ça existe parce que Jimi Hendrix s'en est inspiré. Avant sa mort, il logeait tout le temps à Marrakech, à Essaouira, pour s'inspirer des Gnawa. Les Chinois, aujourd'hui, ils ont une musique étalée, le malade sous un piano en lui jouant des notes. On sait que les vibrations correspondent avec certaines vibrations de sensibilité des rythmes, des couleurs de l'être humain. Donc avec la musique, on peut toucher des points bien précis. Ce qui fait que souvent on écoute la musique, on pleure parce que ça nous fait penser à quelqu'un qu'on aimait. On écoute la musique, on rigole parce que ça nous fait penser à tel. La musique, elle est hyper large, elle veut tout dire. Et le Baïfal aussi incarne le patchwork. Patchwork, c'est le Ndiakhas. Ndiakhas, c'est toutes les couleurs que notre guide aussi voulait défendre et prendre comme philosophie, que tous les peuples sont nés unis. Et lui, il a réussi à regrouper le mandingue, le djola, le soninke, tous. C'est pour cela, moi qui étais tout petit, en quête de sonorité, comme je vous l'avais dit, j'ai pris cette musique qui parle d'ouverture, rassemblement, Ndiakhas, patchwork, et la musique Gnawa qui parle de couleur, et les deux qui fait ma musique. Aujourd'hui, forcément, il y aura beaucoup de sonorités qui représentent la Ndiakhas du Sénégal et beaucoup de vibrations aussi qui rappellent la musique Gnawa, parce que la musique Gnawa aussi touche beaucoup de personnes. Donc j'espère que cet album Mayam, qui est les ressources, touchera un public large et chacun s'y retrouve, parce que ça parle que partage, amitié, réconciliation, respect et l'amour.
Un grand merci à Nourou Kane d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous rappelle donc que le titre Welcome est disponible sur toutes les plateformes et que l'album Mayam est à venir très prochainement.
Histoire 2, vous raconte l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris.
C'est la fin de cette émission, dernière que l'on espère confinée. Un grand merci à Martina et Rony pour leurs interventions. Vous retrouverez cette émission en podcast sur le site de radiocampusparis.org et on se dit à la fin du mois, le 28 mai, pour notre format court. D'ici là, prenez soin de vous et belle soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.